Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Céline Antonin, économiste à l'OFCE, co-auteur du pouvoir de la destruction créatrice, innovation, croissance et avenir du capitalisme, chez Odile Jacob. Gaël Sliman, le président d'Odoxa. Philippe Trénard, professeur honoraire au CNAM et membre du cercle des économistes. Ah, ça fait réagir la concurrence dans le train. Cet auditeur me dit, alors la mise en concurrence d'EDF n'a pas fonctionné, c'est parce qu'elle n'a pas eu lieu en fait, écrit-il. Si on avait voulu une concurrence, il aurait fallu privatiser le parc nucléaire entre plusieurs opérateurs. Voilà, alors que le monopole de la rente nucléaire a été laissé à EDF. Cet autre auditeur, Gilbert, considère qu'il ne peut y avoir de concurrence qu'entre le train et l'avion. C'est son avis. Vous vouliez dire encore un mot là sur l'histoire de la concurrence.
Non, c'était très rapide. C'était que vraiment.
On a été un peu rapide sur le sujet, mais je crois qu'on a vraiment bien touché les sujets.
Parce que pour moi, il y a vraiment deux choses, comme le disait Philippe Trénard, et ça, je suis tout à fait d'accord. Il y a la partie réseau sur laquelle là, pour moi, c'est un monopole naturel. Du coup, je veux dire avec des coûts
les rails,
qui doivent être et puis assurés par l'État. Enfin, je veux dire là, ça me semble assez inévitable. En revanche, sur la partie réseau, moi, je suis tout à fait. J'ai rien contre l'ouverture à la concurrence, mais dans ces cas-là, pour moi, il ne peut pas y avoir de problématique du type. Social. Enfin, je veux dire, à ce moment-là, on laisse une concurrence se faire entre les acteurs, mais on ne demande pas à certains d'assurer une tarification sociale ou d'assurer le maintien de lignes sur des trajets non rentables. Voilà,
après, c'est... Si on fait une aide à la personne, si on veut faire du social, c'est l'État qui aide
le voyageur. C'est plus cohérent, mais sinon, ça crée une grosse distorsion.
Non, moi, je ne pense pas. Je pense qu'on peut très bien demander à la SNCF, en l'occurrence, dans l'espèce, des missions de service public et sur un volant de son activité, en l'occurrence le TGV, parce que c'est ça le sujet. Sur le TGV, on peut dire, là, pour le coup, c'est open bar, allez-y, faites ce que vous voulez, et on ne vous impose pas de mission de service public, d'ailleurs, ils n'en ont pas sur le TGV.
Il n'y en a pas sur le TGV.
Il n'y en a aucune.
Non, c'est sur les...
Et le vrai scandale du prix des billets, il est pas sur les trains, les autres trains, il est sur le prix des TGV, où il y a des abus, et surtout... une politique tarifaire aberrante. Donc, mettez de la concurrence là-dedans. Je ne suis pas toujours favorable à la concurrence.
La politique tarifaire, c'est le management.
En l'occurrence, exactement. Si vous mettez un autre opérateur en face, vous verrez qu'on aura des prix plus normaux. Ce que j'appelle normaux, c'est ne pas passer de 10 euros à 200 euros pour le prix du même billet.
J'ai un peu fort quand même. Mais
pas tellement.
J'ai vu des phénomènes.
Vous avez des phénomènes hallucinants en termes de prix. Et les gens sont fous furieux de ça. Donc, le modifier, ça ne pourra avoir que du.
C'est sûr qu'il y a des grandes vertus à la concurrence. Normalement, une meilleure qualité.
Qui exploite une mauvaise programmation du nombre de trains, des horaires des trains, justement, pendant les périodes à forte concentration, etc.
Et l'État doit aussi jouer son rôle de bon régulateur.
Oui, enfin, mais
voilà.
La régulation est importante.
Mais c'est important aussi que l'ensemble du vieux monde du rail ouvre la porte. Parce que là, quand le fondateur de Midnight Train dit que c'est un marché qui a été organisé par les pouvoirs publics, destiné à un opérateur historique, il ne le dit pas de manière totalement explicite, mais il explique bien qu'on l'a pas laissé rentrer, quoi. Voilà.
Et puis qu'il y a une grosse capture, enfin, il y a une grosse capture par le personnel de la SNCF, de la rente de la SNCF. Bien et sûr. c'est ça qui est problématique. Alors, il ne s'agit pas de tondre les agents de la SNCF, hein, mais c'est vrai qu'il faut mettre fin à cette rente et à la capture de cette rente.
En tout cas, moi, je souhaite qu'il y ait de la concurrence. Et alors là, le projet Proxima, avec son milliard d'euros, ses 12 rames d'ores et déjà commandées à Alstom, on est quand même sur du lourd, c'est bien engagé.
C'est intéressant.
C'est structuré.
Il faut espérer que ça reste rentable.
Ah, mais moi, j'espère que ça ira jusqu'au bout. Voilà. Odoxa, AJP Challenge BFM Business, baromètre du mois de juin. Pour ou contre la lutte contre les déficits, quoi. C'est en résumé la question qui a été posée. Je vous laisse nous donner bilan de cette enquête.
Plus que pour ou contre, vous savez qu'on fait ce baromètre depuis plus d'une décennie maintenant, même bien plus que ça. Et donc on a des questions qu'on a déjà posées de manière récurrente. Sur le rapport des Français à l'importance de la question de la réduction de la dette et des déficits, on a vu plusieurs inflexions, pas dire des tournants, mais plusieurs inflexions dans l'opinion. On est passé du « on s'en fiche », il y a quelques années, c'est bien dommage, mais c'est pas très grave, dans le fond. Et maintenant, on est sur autre chose. Et la question que nous avons posée aux Français, c'est de savoir si, et c'est une question barométrée qu'on pose régulièrement, si pour lutter contre la dette, d'abord, si c'était quelque chose qu'ils estimaient sérieux, et c'est le cas, et si pour lutter contre la dette et les déficits, il fallait le faire à mort, quitte à ralentir l'économie, ou bien s'il fallait soutenir l'activité économique, quitte à augmenter la dépense publique et les déficits. Donc, choix de Sophie, Là, en l'occurrence, on est passé en l'espace de peu de temps. Hein. Vous voyez, on avait posé la question.
Côté un peu peste ou choléra, évidemment. Mais bon.
Oui, ou qui arrive d'ici là. Ou qui arrive d'ici là. On est passé d'un 50-50 il y a un an, et c'était déjà un rapport qui s'était largement équilibré par rapport à il y a 5 ans ou 10 ans, où les gens disaient qu'il faut surtout soutenir l'économie. Donc on est passé d'un 50-50 à aujourd'hui une nette majorité, 59-38, qui disent non, tant pis, quoi qu'il arrive, il faut lutter contre la dette et les déficits. Et quand on regarde surtout ce que nous disent les gens sur les conséquences que ça peut avoir, ils ne se disent pas que le faire va plomber notre économie, mais au contraire, que ce sera positif pour le bon fonctionnement de notre économie. Mais on est dans une période très particulière. On a Standard & Poor's, oui, qui a dégradé la note de la France. On a Bruno Le Maire qui, très curieusement, depuis 9 mois peut-être, ou 8 mois, nous explique, oh là là, je suis à la tête d'un pays en faillite, d'une certaine manière, pour paraphraser un ancien Premier ministre, nous explique que c'est terrible, la situation économique, qu'il faut surtout agir dans ce domaine, alors qu'il est aux manettes depuis 7 ans. Et ça, les Français l'ont entendu, et donc c'est devenu pour eux un sujet extrêmement important. Et l'autre sujet, c'est comment fait-on ? Et là, la grande nouveauté, c'est que les Français sont prêts à faire un certain nombre de sacrifices. Alors, si c'est le moins possible pour eux-mêmes, c'est mieux. Mais quand même, ils sont prêts à ce qu'on fasse un certain nombre de sacrifices au niveau collectif pour parvenir à réduire la dette et les déficits. Il y en a un seul qu'ils ne veulent pas faire, même s'ils le veulent un peu plus qu'avant, c'est la hausse des impôts. On a plus de 80% des Français qui disent non, ça c'est pas possible.
Faire la hausse des impôts pour tous. Hein, de...
oui, pour tous, ouais, oui, pour tous. C'est-à-dire faire rentrer davantage d'argent dans les caisses pour rééquilibrer les choses.
TVA,
on comprend bien,
on comprend bien
le principe, mais ça on n'est pas d'accord. Mais à part ça, et ça a progressé de 4 points, les gens qui disent je suis prêt à ce qu'on augmente les impôts pour tous, mais on est à 18% seulement. Mais à part ça, finalement, réduire les aides sociales, on a 59% des Français qui nous disent qu'ils y sont favorables. Ça a augmenté de 7 points en un trimestre.
Ah, 7 points
en un trimestre. 7 points en un seul trimestre.
C'est lourd.
Et baisser le nombre de fonctionnaires, on est à 57% de Français qui y sont favorables aussi. Donc, on est face à un choix de société qui montre que l'opinion a largement évolué sur le sujet.
Je vais vous faire réagir. Un jour, il faudra poser la question. Ils sont contre les hausses d'impôts, je ne suis pas étonné. Est-ce que vous êtes conscient que les impôts augmentent souvent sans que ça se voit ? Parce que toutes les...
Enfin, les gens le pensent, les gens en sont convaincus de ça. Quand c'est faux.
Quand on leur explique qu'on va couper une niche fiscale, ils ont bien conscience que c'est le même effet que la hausse d'impôts. Ou quand on décide de supprimer une subvention, finalement, c'est de l'argent qui n'est pas prélevé, mais de l'argent qui n'est plus versé.
Alors, ce que les
gens comprennent...
Et c'est
une manière, finalement, de resserrer le...
Non, parce que ce que les gens comprennent quand même, Nicolas, dans impôts, c'est un truc que la plupart des gens payent.
Oui.
Donc, si vous supprimez des niches fiscales ou que vous augmentez les impôts sur les super profits, les super riches, l'immense majorité des gens ne payent pas ça. Donc, quand vous dites ça, ils ne le vivent pas comme une hausse d'impôts. Mais ils ont toujours l'impression qu'on paye plus d'impôts, ça c'est sûr.
Moi, je considère que resserrer les droits au chômage sans réduire les cotisations, c'est une forme d'hausse d'impôts.
Oui, bien sûr.
Que vous inspirent les résultats de cette enquête, Philippe Trénard, Céline Antonin? On a envie de dire. Ah, moi, je me souviens au moment du PLF 2024, cette phrase m'avait frappé de la part de Bruno Le Maire et je pensais qu'il avait parfaitement raison. Il disait le désendettement, tout le monde s'en fout.
Oui,
peut-être de moins en moins.
Non, de moins en moins.
En fait.
Alors, le petit problème, c'est que parfois les économistes sont un peu en retard et qu'au fond, là, je pense que le gouvernement a fait une pédagogie avec Standard & Poor's et avec d'autres et que les personnes se rendent compte qu'il y a toujours un risque. Ça ne veut pas dire que d'avoir de la dette, vous êtes en crise demain. Ça veut simplement dire que si les chocs continuent à se multiplier comme nous l'avons observé sur le passé, nous allons avoir des problèmes parce que une dette pas trop élevée, des déficits inexistants ou pas trop élevés, c'est une capacité de résilience face à un choc de la guerre, éventuellement, choc climatique, choc sanitaire, pandémique, choc éventuellement démographique sur le plus long terme. Donc je crois que quelque part, la réaction à votre enquête me paraît assez normal, c'est de se dire n'augmentons pas les impôts, parce que le problème de l'augmentation des impôts, ça veut dire que pour le choc suivant, vous avez encore moins de marge de manœuvre que pour le choc précédent. Tandis que si vous remettez un peu les choses en place, et c'est vrai que de redescendre au niveau de dépenses qu'on avait avant le Covid, ça devrait être normalement assez simple, puisque les dépenses supplémentaires du Covid n'avaient pas vocation à s'éterniser.
C'est ce qu'avait dit Hollande à l'époque, il avait dit... Il avait comparé, je ne sais plus, deux périodes en disant qu'il y avait eu tant de dépenses en plus et que ça n'avait rien modifié.
Ça n'avait rien modifié, voilà.
Voire même l'efficacité. J'ai une espèce d'intuition depuis le début de l'année. Quand j'ai vu ce premier décret à 10 milliards, cette nouvelle annonce à 10 milliards, quand je vois la Cour des comptes qui nous dit c'est minimum 50 d'ici 2027, j'ai l'impression que 2024, il sera peut-être une année de tournant, une année pas comme les autres, dans notre relation collective à la question des comptes
et
publics.
Ça va permettre aussi, on a pas mal de groupes qui demandent de la dépense, plus de dépenses plus de dépenses écologie, et tout d'un coup on se rend compte que les risques, il n'y a pas qu'un risque, il n'y a pas que le climat, il n'y a pas que la guerre, il n'y a pas que la pandémie, qu'il y a plusieurs risques, il faut donc des arbitrages, une répartition équilibrée, et naturellement vous ne pouvez pas dire tout sur tel risque, parce que là, c'est prendre un risque majeur.
Céline, oui, je pense 2024, une année pas comme les autres en matière de perception des comptes publics.
Souhaitons-le. Ouais. Mais je pense qu'on est aussi dans une année un peu de bilan de ce qu'on a fait pendant les années précédentes. Et je pense qu'entre les dépenses de la Covid, les dépenses pour la crise énergétique, on a quand même largement ouvert les vannes, enfin, et on a quand même énormément dépensé. Sous le mandat d'Emmanuel Macron, on a quand même la dette publique s'est largement accrue. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on est en train de faire un peu le bilan et de se rendre compte qu'effectivement, le niveau de la dette publique, il faut voir, en Allemagne, ils sont à moins de 70% d'endettement public, on est à plus de 110%. Donc, il y a quand même des comparatifs qui s'imposent. Et pourtant, l'Allemagne a pris des mesures généreuses, etc. Mais ils étaient en moins mauvaise situation.
Et choc puis, plus violent.
On partait déjà. Parce qu'effectivement, j'ai entendu Bruno Le Maire vouloir un peu charger Covid, la crise énergétique, le choc en Ukraine. Mais faut voir d'où on partait en 2019.
Oui, tout à fait. Mais il faut voir la dérive depuis 2010 quand on compare la France et l'Allemagne depuis 2010. Enfin, c'est incroyable ce qu'on a divergé. Donc, c'est vrai que tout ça fait que pour les dépenses de demain dont vous parliez, il va falloir aussi avoir des billes. Et donc, si on ne les a pas, comment on va dépenser? Je pense qu'on prend aussi conscience, dans une période de remontée des taux, puisqu'on a connu aussi cette remontée des taux, que ça nous coûte plus cher, l'endettement, et que si on veut investir dans l'école, dans la santé, on ne peut le faire que si...
C'est les effets cliqués. Le problème, c'est les effets cliqués. C'est-à-dire que au moment du Covid, puis au moment de toutes les aides, on a été quand même particulièrement généreux.
Trop généreux par rapport à tous les autres pays.
Alors là, à l'époque, les Français ne le trouvaient pas. Ouais. N'estimaient pas que c'était trop généreux. Et donc, la difficulté, c'est ce que vous disiez, Philippe, il y a un instant, c'est avoir ouvert les vannes parce que nous sommes en France et qu'on a un rapport particulier à la chose publique, au rôle de l'État, qu'on est très bon, c'était normal. Et c'est pas un président crypto-communiste qui a fait ça, c'est Emmanuel Macron. La difficulté, c'est qu'il faut revenir en arrière. Il faut faire rentrer le dentifrice dans le tube. Et ça, c'est très compliqué. Et c'est pour ça qu'on a, à mon avis, dans ce sondage, des Français, y compris parmi ceux qui sont les plus nombreux à être opposés, par exemple, à la réduction du nombre de fonctionnaires ou à la réduction des aides sociales, logiquement, sont des sympathisants de gauche ou des salariés du secteur public. Enfin, mais c'est dans des proportions d'opposition assez raisonnables. On a quand même un peu plus de 40% ou 45% des insoumis qui sont favorables à ces mesures d'inspiration. Donc, ça veut dire que la société, elle évolue pas mal sur ces questions. Et puis, on avait une dernière question.
Le résultat m'a frappé.
Qui est terrible pour la classe politique dans son ensemble. Qui est, mais à qui faites-vous le plus confiance politiquement pour parvenir à réduire la dette, les déficits publics, etc. Et on testait les principales formations politiques. Et on se rend compte que les Français nous disent, pour chacune, ils sont une très large majorité à dire, je ne lui fais pas confiance pour y parvenir.
Ils ont confiance dans aucune formation politique.
Aucune formation politique. Donc il n'y a pas d'horizon enthousiasmant, mais il y a quand même une formation qui s'en sort un peu moins mal que les autres, et c'est un énorme paradoxe compte tenu de son programme économique et de ce qui est annoncé. Absolument. C'est le Rassemblement National. C'est-à-dire que le Rassemblement National, c'est pas terrible. On a 32 ou 33%, 33% de confiance de la part des Français pour réduire la dette et les déficits publics. C'est 10 points de plus que le gouvernement actuel qui, Emmanuel Macron, surnommé le Mozart de l'économie, etc., c'est créer une légitimité aux yeux des Français pour sa compétence en matière de finances. Oui. Et aujourd'hui, l'échec de la situation de nos finances publiques fait qu'il est 10 points de moins crédible que le Rassemblement National, moins crédible que LR et moins crédible que le PS.
Effectivement, je comprends. Et puis, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que Bruno Le Maire, il est quand même là depuis 2017.
7 ans. Mais est-ce que c'est pas
Il y a un vrai bilan.
Très, très, très corrélé avec les choix de vote.
Totalement. Oui. Vous avez raison. Mais où est l'œuf et où est la poule? C'est-à-dire c'est exactement, c'est tout à fait corrélé au choix de vote des Français.
Oui, pour moi, il y a même une corrélation de 0,9.
Et quand vous les interrogez sur tout un tas d'autres sujets, les Français, à qui faites-vous le plus confiance pour la sécurité, pour ceci, pour cela, ça redonne le même type de hiérarchie. Mais ça veut dire quand même que là-dessus, il y avait une valeur ajoutée donnée même à des gens qui ne l'appréciaient pas, à Emmanuel Macron, à son équipe, au gouvernement, en se disant, ils s'y connaissent. Il a été dans des banquiers d'affaires, donc tout ce qui est compte public et tout, il doit s'y connaître. Aujourd'hui, il n'y a même plus ce présupposé-là.
Mais je voudrais peut-être insister sur le changement quand même de climat. Souvenons-nous de l'élection de 2022. Pécresse est sur un programme, au fond, de ce type, disant le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il ne fait pas assez attention aux finances publiques. Mmh. C'était au fond, si on devait opposer les deux programmes, c'était ça l'opposition. Et à l'époque, effectivement, les économistes, beaucoup d'économistes, pas la majorité, la majorité des économistes, je pense, et l'opinion disait, c'est pas le sujet, c'est pas le grand problème. Et aujourd'hui, changement de climat assez fondamental que vous souligniez. Vous dites
2022, mais...
C'est 2022.
En 2017, c'était François Fillon, hein. Moi, je me souviens, dont
bien
on
sûr.
Disait, je veux dire, c'était un
programme qui paraissait très fou, libéral,
supprimer des fonctionnaires, etc.
Regardez quand même, 2022, c'est finalement loin quand on voit à quelle vitesse nos comptes publics se sont dégradés. Enfin, moi, le chiffre qui me fait penser que 2024 et 2025 sont des années charnières, 2021, on rembourse 25 milliards d'intérêts de dette. 2024, 50.
Bah oui, mais les taux d'intérêt
ont voilà, c'est ça c'est le problème.
C'est à ce moment-là, ça devient sérieux.
C'est juste
là, on rentre dans le dur. Ouais,
et voilà. Valérie Pécresse, juste à l'époque, faut se souvenir quand même qu'au mois de décembre 2021, pendant sa campagne, au moment où elle a son investiture, elle se retrouve à ça d'être qualifiée dans les intentions de vote pour le second tour. Oui. Elle monte à 19-20%, elle est dans une dynamique spectaculaire, et puis ensuite, elle fait une mauvaise campagne pour dire les choses rapidement, et elle s'effondre. Mais à un moment donné, il y a eu un moment, Valérie Pécresse, on l'oublie après, mais il y a eu un moment Zemmour, qui sont ensuite
il y a eu un moment Pécresse,
ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré quelques semaines, mais puisqu'elle a fait après une succession de mauvais meetings, la communication n'était pas bonne, mais sur le fond, il y avait quelque chose qui aurait pu fonctionner.
Oui, mais enfin, bon après...
Il n'y a jamais eu de moment idéal.
Je comprends qu'il n'y ait pas... Vous voyez, l'attitude d'LR par rapport au sujet budgétaire face à Macron pour être en opposition, où finalement, ils vont tordre leurs idéaux traditionnels par rapport à la gestion des comptes publics.
Sur le plan économique,
comment vous voulez faire confiance à une formation politique qui, justement, était plutôt sur une thématique de sérieux budgétaire un peu à l'allemande, et qui se mouche totalement avec ses positions historiques, dans la mesure où il faut s'opposer au président actuel. Il y a un moment où c'est difficile d'avoir confiance.
Pourquoi vous dites ça, Nicolas?
Aujourd'hui, vous avez LR qui a réussi à s'opposer dans le budget 2024, j'ai plus la liste exacte des mesures qu'en théorie, cette formation politique aurait dû porter.
Y compris les retraites, souvenons-nous.
Voilà. Non, mais parce que ce qu'ils disent, enfin moi je ne me fais pas le porte-parole de qui que ce soit, mais parce que ce qu'ils disent, c'est que ça ne va pas assez loin. C'est la même chose quand le RN est en désaccord sur des sujets d'immigration avec le projet de loi immigration initial, en disant, oui, bien sûr, vous voulez durcir, mais c'est un durcissement mou, moi, je veux aller plus loin. Donc, c'est ça, le positionnement de LR. Il se positionne quand même, a priori, sur une ligne moins dispendieuse, en tout cas en affichage, que ce que propose Renaissance.
Oui, et puis c'est pas les mêmes leviers. Ce sont pas les mêmes leviers aussi.
Et puis il faut se différencier en politique, sinon vous n'existez pas.
Ça pointe un peu du doigt la dynamique, au fond, majoritaire, qui amène à ce type de comportement. Si vous faites pas tout ce que je dis, je suis contre vous, même si vous faites la moitié du chemin, c'est vrai, dans une optique plus de compromis à la 4e République, vous dites, je viens vous apporter mes voix.
On avance. Moi, ce qui m'a frappé dans cette question, c'est qu'en fait, la très grande majorité n'a confiance dans aucune formation politique pour réduire les déficits, parce que la réponse, pas confiance, elle enregistre des résultats qui vont de 66 à 82%.
Ouais, en gros, les trois quarts des gens en moyenne.
Mais c'est vrai que ces différents partis ont été au pouvoir à part le RN, et honnêtement, c'est vrai que le bilan de leur gestion des finances publiques est pas brillant.
Mais quand même, quand j'ai entendu Bruno Le Maire se désespérer du 50e budget dans le rouge de la France, j'avais envie de lui dire, monsieur le ministre, vous étiez là dès le 43e. Hein.
Oui, Emmanuel Macron lui a dit, paraît-il. Oui, Emmanuel Macron lui a dit, Bruno, ça fait 7 ans que tu es...
Alors, si on voulait parler du Rassemblement National, il dit qu'il aurait, lui, maîtrisé la dette, mais malheureusement, le programme qu'il a,
on ne voit pas comment.
Dans l'expertise réalisée d'ailleurs par des membres du Cercle des économistes dans Challenge, des propositions économiques du RN, je crois qu'ils ont chiffré l'histoire à 4 points de PIB, quoi. 4 points de PIB, c'est 100 milliards d'euros. Donc, et toujours avec l'idée que c'est en allant ramasser l'argent magique de la lutte contre la fraude qu'on peut tout financer.
Enfin, en prenant les hypothèses les plus favorables, ça faisait accroître beaucoup plus vite que Macron la dette publique. Alors, je ne parle pas des hypothèses des favorables.
C'est où la richesse ? Alors, cette fameuse question, on est riche à partir de quel montant ? Et alors, l'Observatoire des inégalités a voulu donner... Je ne sais pas comment ils arrivent à ce résultat. Pour eux, c'est deux fois le niveau de vie médian. Donc, ça donne, après impôt, pour une personne seule, on est riche au-delà de 3 860 euros par mois après impôt. Pour un couple après impôt, au-delà de 5 790 euros. Pour un couple avec deux enfants après impôt, au-delà de 9 650 euros, selon l'Observatoire des inégalités, ça représente 4 700 000 Français.
Vous vous souvenez, Nicolas, qu'on pose la question dans le baromètre régulièrement, avec vous, à JP Challenge BFM, c'est quoi un riche ? Et donc, on retombe à peu près là-dessus. On est entre 4 000, selon les années, entre 4 000 et 5 000 euros par mois, mais en brut, c'est pas après impôt, quoi.
Par foyer ou par personne
Par personne. Et vous vous souvenez ce qu'avait dit François Hollande, il y a quelques années, qu'à partir de 4 000 euros, on était riche. Il était pile poil dans la plaque de ce que nous disent les Français dans les sondages. Et c'est à partir de... Alors, sur le patrimoine, on est autour de... Entre 500 000 et 1 million d'euros qu'on est considéré comme riche selon les années. Le riche... dans l'enquête, c'est celui qui gagne deux fois plus que soi, puisque quand on compare ça au revenu des gens, en fait, ils situent la richesse à deux fois leur propre niveau de vie.
Oui, ça colle bien, puisque le revenu médian, c'est 23 000 euros. Mmh. Donc, effectivement, c'est-à-dire à peu près 2 000 euros par mois.
Oui, c'est à peu près 2 000 par mois.
Donc, c'est pas un très riche, le riche. C'est mon voisin, un peu plus riche que moi.
Alors, Philippe Trénard, faut quand même s'arrêter une seconde, parce qu'il est assez fréquent que l'Observatoire des inégalités, non, qui sonne comme ça très académique, prenne des positions, mais enfin, des positions qui sont généralement entachées de pas mal d'idéologie.
Oui, j'arrive pas à comprendre ces chiffres. Je sais pas, un riche, bon, je vois bien dans le discours politique, j'aime pas les riches, bon, mais c'est quoi un riche ? Honnêtement, ces définitions-là, elles sont à la limite de l'absurde et du surréaliste. Il n'y a rien de scientifique là-dedans, zéro scientificité. Et on a un observatoire des inégalités qui se présente scientifique, et puis après ça, qui vous dit, d'ailleurs, dans l'enquête Challenge, je vois que... Alors, vous êtes un peu consterné, vous attendriez qu'on cite le World Database de Piketty, ou qu'on cite les travaux de recherche qui viennent paraître aux États-Unis, ou les comparaisons que vient de faire au NBER, un article très intéressant sur l'évolution des inégalités. Bien évidemment, l'Observatoire des inégalités ignore tout ça, et on a l'impression que c'est plutôt un discours un peu politisant, qui essaye de donner un peu d'économie à des concepts très politiques.
Oui. D'ailleurs, là, en fait, ils veulent s'attaquer en fait à l'INSEE, qu'ils accusent sans le dire de mutisme sur la question de la richesse, l'INSEE se limitant à dire en dessous de quel montant on est pauvre. Mais il faut voir qui est dans cet observatoire, qui l'a fondé, pour voir quand même si son orientation politique qui est absolument claire et précise.
Oui, mais la science n'est pas faite, ça a quand même un rapport à la politique un peu distancié. Ça donne des instruments aux politiques, mais ça ne fait pas de politique. Donc, voilà.
Oui, et puis, alors moi, ce qui me gêne toujours, en plus, dans ces questions de richesse, et qu'on l'a dit, c'est très subjectif, c'est toujours on est le pauvre de quelqu'un, le riche de quelqu'un, mais c'est qu'en plus, ce qui compte, c'est vraiment l'effet objectif. Enfin, pour le coup, on regarde le revenu médian en France, et ce qu'on voit, ce qu'on qualifie, en fait, par exemple, comme riche, c'est donc on va dire le revenu médian, donc c'est à peu près 23 000 euros. Et le revenu, donc,
par an,
et quand on rentre dans le 10% de plus riches en termes de revenus, on est au double, à peu près. Donc, je considère que quand on fait le ratio des deux, on est à un ratio de deux, c'est pas quelque chose de délirant. La France fait plutôt partie des pays égalitaires après redistribution. Clairement. Il faut quand même le rappeler. Alors, la redistribution nous permet de redescendre vraiment à un niveau d'égalité qui est quand même assez important. Et la deuxième chose, c'est que, et c'est notamment ce que montrent les travaux de Piketty et de tous les gens qui travaillent sur la richesse, ce qui est important, c'est justement ce qui se passe dans les 10% du haut, voire le 1% du haut, où on a une augmentation exponentielle des revenus. C'est-à-dire que même entre le... 1/100 de revenus supérieurs par rapport aux 10%, on a un ratio qui est aussi de 1 à 2, en fait. Et à chaque fois, ça augmente de plus en plus. Donc, en fait, c'est complètement exponentiel. Et donc, pour moi, la richesse, elle se définit dans ces eaux-là. Enfin, c'est-à-dire que c'est vraiment c'est cette exponentielle qui est intéressante. C'est pas ce qui se passe entre 2000, 3000 ou 4000 euros. Enfin,
le seul raisonnement qui justifierait ça, puisque nous, on fait des sondages, donc on se cale sur les quotas de l'INSEE, c'est le découpage en quartiles de la population. que fait l'INSEE, et où, bah oui, il y a bien les 20% de Français, on est capable d'identifier le niveau des 20% de Français les plus riches, et quand vous dites ça à droite à gauche à vos amis, que vous dites où ça se situe, autour de 3 500-4 000 euros, enfin...
Et qu'on appelle disent, classe aisée à l'INSEE d'ailleurs.
Oui, et nous, quand on dit, vous savez, quand on dit les CSP+, c'est les catégories de revenus supérieurs, les Français les plus aisés. Ben, on est en train de parler de gens qui gagnent plus de 3 500 euros par mois. Et donc, on est sur des niveaux qui souvent étonnent les gens. Alors après, il y a la variable Paris, enfin région parisienne, reste de la France, où vous multipliez par deux, en fait.
Oui, oui. Voilà. C'est pour ça qu'il faut prendre le coût de la vie là où vous habitez aussi. Il faudrait un vrai indice.
Soit vous considérez qu'on est riche sur le plan statistique, et donc effectivement, à partir de 3 500, 4 000, on est riche. Comparé au reste de la population, soit vous considérez que être riche, c'est peut-être pouvoir s'arrêter de travailler et vivre de ses rentes. Et dans ce cas-là, on est plutôt dans le dernier centième du dernier décile.
Mais en plus, il y a la combinaison du revenu et du patrimoine aussi qui doit rentrer en compte, parce que là encore,
probablement quand autrefois le Parti communiste au moment du Front populaire et parlait des 200 familles, effectivement, il était sûr que ces gens étaient riches et qu'ils n'étaient pas les équivalents du français moyen. Mais, alors les 1%, c'est sûr qu'on est chez les riches, là il n'y a pas de problème, personne ne le contestera, et je crois que... Mais là, je trouve...
Mais les 1%, on est au-delà de 110 000 euros. Hein,
mais bien sûr.
Moi, ce qui me gêne le plus, bon, à la limite, qu'ils mettent les chiffres qu'ils mettent et les définitions qu'ils veulent, mais ce qui me gêne, c'est quand après, c'est repris par le politique pour dire, en fait, c'est le moyen de taxer, par exemple, à l'IR, de dire, il faut qu'il y ait 42% uniquement de la population qui porte l'ensemble de l'effort fiscal sur l'IR. Ça, c'est quand même plus problématique.
Vous avez raison aussi de rappeler que la France a quand même un système de redistribution le plus généreux du monde. Oui, hein. On a un écart, alors c'est redistribution monétaire, on a un écart de 1 à 13 après revenu. Une fois que l'impôt est passé par là, ça passe
Après revenu tous les mois.
Revenu d'activité.
Revenu d'activité 1,13. Là-dessus passe la fiscalité, on tombe à 1 à 7. Et avec l'apport des services publics très largement gratuits pour une bonne partie de la population, on tombe entre 1 et 3 d'après l'INSEE.
Oui, c'est même 1, 2, 1 et 2. C'est même 2,5, 2,7 selon les années. Honnêtement.
On a fini. Quoi, pardon ?
Non, mais c'est ça qui, moi, ce qui je trouve problématique, c'est quand après, ça sert de base pour le politique.
C'est comme ce chiffre qu'avait sorti un jour le syndicat des impôts. La fraude, c'est 100 milliards. Ça n'a jamais été vérifié. Et à tous les coups, on vous le ressort. Ah, pour financer mon programme, et j'irai chercher les 100 milliards de la fraude.
Oui, oui. Ouais. Bah, la fraude, on ne sait pas comment les chercher.
La fraude, ça fait des années qu'on n'arrive pas à dépasser les 2 milliards sur la sociale et qu'on n'arrive pas à dépasser les 11 milliards sur la fiscale.
Alors, mais un chiffre répété de façon péremptoire ne sera jamais mieux
qu'on va chercher le trésor des Qatars.
Oui. Bon, merci à vous d'avoir été là, Céline Antonin, Philippe Trénard pour le Cercle des économistes, Gaël Sliman pour l'enquête mensuelle Odoxa AJP, Challenge BFM Business. On se retrouve demain à 9h.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.